toi, chers amis. Je vous propose qu'on enchaîne sans plus attendre et qu'on accueille notre invité politique cette semaine, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau. Bonsoir Sylvie Retailleau.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat.
Merci à vous, vraiment merci.
Je vous en prie, Adèle le disait dans sa chronique, vous venez de la recherche, vous êtes chercheuse en sciences physiques, vous avez gravi tous les échelons, vous avez été doyenne de la faculté, vous avez été présidente de l'Université Paris Sud, présidente de l'Université Paris-Saclay, vous avez été nommée ministre en mai 2022, vous n'étiez pas la seule à venir de la recherche à être nommée, il y avait aussi Pap Ndiaye. Pourquoi vous êtes toujours là et lui il l'est plus? C'est dur d'être de la société civile et d'arriver au gouvernement?
Alors il y a plusieurs questions. On va essayer de répondre à plusieurs. D'abord je voudrais dire effectivement pour compléter, vous avez compris que Bruno Retailleau n'a pas de lien avec Sylvie Retailleau.
Oui, on l'avait compris. Non.
Dans ce sens-là.
D'accord.
C'est quand même important aussi, mais effectivement pour Pap Ndiaye, je pense que vous savez à qui demander. Et c'est dur d'être ministre quand on vient de la société civile, oui. C'est une grosse réflexion en amont. Et effectivement, c'est aussi, vous savez, dur quand on est chercheuse et enseignante-chercheuse de devenir aussi présidente, donc chaque étape. Et c'est à chaque étape, quelque part, une étape supplémentaire franchie par projet et conviction, en tout cas pour ma part, d'essayer de participer à cette évolution de ce monde de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Ce monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, vous voulez participer à sa construction, comme vous le dites. Il est dans quel état aujourd'hui? Parce que, je ne vais pas vous mentir, nous, vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est assez ravagé comme ministère.
Alors, c'est en fait, quand vous venez...
Et on a dépassé un palier, pardon, excusez-moi, je vous coupe. Merci beaucoup pour vos dons. Excusez-moi, pardon. C'est un palier de dons, du coup l'émission est financée un peu plus qu'avant et ça c'est super. Pardon.
Coupe la ministre,
c'est incroyable. Allez. Ça. Madame
c'est Montaigne, important. Donc en fait, effectivement, je pense que quand on a envie de s'investir, quand on n'est pas de ce monde-là, monde politique, on a envie de s'investir, souvent c'est pas par facilité. C'est pas quand tout va bien ou effectivement il y a pas de challenge à relever, de défi à relever. Ce sont des défis aussi internationaux, européens, mais aussi nationale. La recherche en particulier a une vision beaucoup plus large que notre hexagone, mais l'enseignement aussi, parce que dans l'enseignement supérieur, on a cette visibilité pour nos étudiants de façon globale. Mmh. Et je pense qu'effectivement, c'est cette envie de participer à essayer d'apporter ensemble des solutions, ou en tout cas de proposer un chemin, de le construire, de le co-construire et d'y participer, surtout quand on connaît bien le terrain. Quand on y a passé 35 ans, on se dit qu'on peut essayer de faire quelque chose ou en tout cas de participer et d'apporter.
Bah, il faudrait sans doute.
C'est vrai que le monde politique, c'est assez terrible. On dit une phrase de travers et voilà.
Ah, bah complètement.
Et alors, du coup, parce que Pap Ndiaye avait dit Europe 1, machin, les groupes Bolloré, c'est les chaînes d'extrême droite. Il n'avait pas du tout été soutenu. Est-ce que pour vous, les chaînes du groupe Bolloré, tout ça, c'est des chaînes d'extrême droite?
Comme vous l'avez dit, vous êtes journaliste, donc c'est à vous de regarder où je passe, comment je passe et ce que je dis.
Vous n'allez pas chez Europe 1?
Chacun son métier, comme on dit.
D'accord. Intéressant. Non, parce que tous les membres du gouvernement n'ont pas effectivement cette pratique. Et vous, c'est vrai, n'allez pas sur ces médias-là. On va parler des étudiants, vous vous en doutez, Sylvie Retailleau. Quand on a préparé cette émission et qu'on a demandé aux étudiants de quoi ils voulaient parler, le mot précarité est arrivé assez vite. Une étude sortie en août dernier par l'association Copain, qui est une association d'aide alimentaire pour les étudiants, dresse un portrait assez terrible. Un étudiant sur trois envisage d'avoir recours à l'aide alimentaire. Un sur deux a déjà dû renoncer à acheter de la bouffe. 60% des étudiants ont déjà renoncé à une aide médicale ou psychologique juste parce qu'ils n'avaient pas de pognon. C'est terrifiant, l'état dans lequel sont nos étudiants.
C'est pour ça que, depuis que je suis arrivée, c'est la priorité. Et dans les choix qu'il faut faire, parce qu'effectivement, quand on prend des responsabilités, quand on fait de la politique ou autre, d'ailleurs à tout niveau de responsabilité, le plus dur, c'est effectivement de faire des choix. Et je crois qu'on va en parler, effectivement, mais les premiers choix, les premiers financements... Et on va continuer, c'est effectivement vers les étudiants. On pourra parler, si vous le souhaitez, du budget, mais aussi de ce qui a été fait. Et vous parlez de Copain, vous parlez de Linky. Ce sont ces associations qu'on connaît bien, hein, puisque on a aussi essayé de les financer, pas pour effectivement, vu l'urgence et le constat que l'on fait aussi, on participe, mais pour ne pas compter, et l'objectif, même si à un moment donné, on travaille, et ouais. rien n'est négligé pour aider les étudiants, parce que la première priorité, c'est de combattre cette précarité, la première chose, c'est d'essayer d'éviter, effectivement, que ces associations, qui sont très utiles, mais existent. Finalement, ça serait la meilleure chose. C'est pour ça que la première chose, ça a été d'essayer de travailler dès l'arrivée sur soit des mesures d'urgence l'année dernière, soit des mesures plus pérennes et la réforme des bourses, on pourra en parler.
On va en parler.
Donc une étape 1 et une remise à plat structurelle de ce modèle de bourse qui n'est plus du tout adapté et qui aide. La pérennité du repas à 1 euro qu'on a mis là pour les étudiants boursiers et tous les étudiants précaires avec un process fluide, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un étudiant qui a besoin en un clic, il doit pouvoir avoir accès tout de suite au repas à 1 euro. Donc c'est cette urgence sur laquelle
vous
on
essaie d'évaluer. Vous dites les étudiants précaires, mais on vérifie pas qu'ils sont précaires, on leur fait confiance.
Attends, exactement, voilà. Au départ, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a besoin, l'idée, c'est de dire l'étude du dossier, de tout, peut-être, mais après. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a besoin, il ne va pas rester un mois ou une semaine.
Ah, donc il y aura quand même après, on va quand même après vérifier qu'il était précaire.
En fait, la philosophie que moi je défends, effectivement, et on pourra en discuter, échanger, débattre, parce que je pense que c'est important, c'est d'aider plus, ou en tout cas d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Mais d'aider rapidement et de pouvoir effectivement agir sans attendre, donc une fluidité des process. Mais
s'il n'était pas précaire, on le punit ? Comment ça marche ? Parce que je sais que l'argument, c'est de dire qu'il ne faut pas que les enfants de Bernard Arnault puissent avoir accès non plus au repas à 1 euro, ce serait scandaleux.
Bah ça, c'est peut-être le vôtre. Moi, vous ne m'avez jamais entendu prendre cet exemple comme
Non, bien sûr, mais de dire que des étudiants qui n'en ont pas besoin solliciteraient le truc. En tout cas, quand il s'agissait de voter à un moment la généralisation du dispositif, c'était les arguments qu'on entendait.
Oui, pas de cette façon-là, mais je vous rejoins. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a affaire à des étudiants, des adultes, et effectivement, quand on est à l'université ou école, enfin peu importe, dans l'enseignement supérieur, on a double rôle, c'est-à-dire qu'on a un rôle de les former pour aller vers un boulot, mais on a aussi un rôle de les former pour que ce soit des citoyens. Et je pense que notre modèle social en France, en tout cas, et que l'on défend, c'est un modèle qui est basé sur la solidarité. Et je pense que quand on est à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'on a affaire à des adultes, inculqués, et ce qu'il faut qu'on trouve, c'est comment soit efficace pour ne pas garder, ne pas effectivement combattre cette précarité, que notre base de modèle social, c'est basé sur la solidarité, c'est une philosophie, c'est une politique, et oui, je suis d'accord, enfin je suis d'accord avec moi, mais pas avec vous visiblement, mais en tout cas, je la défends. Pour autant, il faut avoir un accès pour ceux qui en ont besoin rapide. Et c'est pour ça, pour revenir clairement au process, c'est de dire un étudiant qui a faim, il ne peut pas attendre. Donc ce repas à 1 euro qui est aujourd'hui pérennisé, et je complète parce que souvent on me pose après la question, donc je vous l'anticipe pour une fois, c'est qu'avec une compensation complète au CROUS soclé, c'est-à-dire de façon pérenne, voilà. Mais quand il a accès tout de suite, pas trois jours après. Et après, ben, dans cette même optique, mais c'est pas que les étudiants, c'est notre modèle qui est fait comme ça. Effectivement, ils déposent un dossier. Et puis, il y a des gens, c'est le métier, ça s'appelle les assistantes sociales. Elles regardent avec lui pour justement pouvoir aider des profils qui ne rentrent pas dans le cadre des boursiers. Et on a des aides annuelles, on a des aides
ponctuelles
que l'on veut développer parce qu'il y a besoin.
Il y a effectivement des aides ponctuelles parfois qui sont plus difficiles à trouver pour les étudiants. Moi, c'est une question, une réflexion, etc. Moi, j'ai été étudiante boursière et j'ai fait toute ma scolarité universitaire avec 500 euros par mois. Et en fait, c'est compliqué, en fait, très clairement, de vivre avec 500 euros par mois. Jamais j'aurais imaginé que là, 10-15 ans après, il y a des étudiants dans une situation encore plus précaire. Moi, je veux bien qu'on parle de tout ça, que oui, si j'ai faim, bon, il y aura le repas à 1 euro, c'est bien, mais quelque chose de plus structurel, en fait. C'est vraiment, vous avez commencé en disant, ouais, c'est des questions de choix, mais là, vu la situation, la précarité des étudiants, Jean l'a dit, 27% vivent sous le seuil de pauvreté, là, c'est pas une question de choix, en fait. Il faut y aller, il y a pas le choix. Pour moi, quand on est ministre et qu'on a cette situation là d'étudiants en souffrance, il y a pas d'autre choix que d'agir concrètement. Le système de bourse, ça fait combien de temps qu'il doit être revu? Franchement, je vous ai dit, moi j'ai été boursière, mais je ne parle pas des personnes dont les parents sont trop riches ou pas assez pauvres, etc., et qui se retrouvent avec un échelon zéro, et qui se retrouvent vraiment avec 0 € par mois, et leurs parents peuvent pas les soutenir. Des gens qui sont obligés de changer de ville parce que de changer de ville pour aller à la fac parce qu'il y en a pas dans leur ville et qui doivent payer un logement. Donc en vrai, c'est vraiment quelque chose de plus ambitieux que des mesures comme celles-là qui sont nécessaires. Et moi, la question, c'était aussi de savoir votre positionnement sur. Vous savez qu'il y a une quinzaine de présidents d'université la semaine dernière qui ont demandé une allocation universelle pour tous les étudiants. Dans l'organisation que je dirige, c'est aussi une campagne que l'on mène pour aboutir à ça, parce que personnellement, là, je sais ce que c'est. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose que, clairement, vous allez mettre en place, cette allocation universelle étudiante ?
Alors, clairement, pour répondre aux questions, quand vous constatez tout ça, ben, c'est pour ça que j'ai annoncé depuis l'année dernière une remise à plat totale du système de bourse, de ce modèle de bourse. Je vous l'ai dit, effectivement, il n'est plus adapté. Quand vous parlez des, on va dire, classes moyennes, vous disiez il y en a qui sont en limite, etc. C'est exactement le constat qu'on a fait. C'est-à-dire que dans la première étape, au lieu de dire on va augmenter de façon proportionnelle, vous savez, en pourcentage, qui fait que finalement les petits échelons ou ceux qui sont à la limite auraient quelques euros, mais peu, on a fait autrement parce qu'on a constaté ça après
pratiquement... Oui, mais c'était déjà le cas il y a 15 ans, quoi.
Non.
Parce que moi, quand j'étais étudiante, c'était déjà le cas.
Oui, mais... les augmentations, en fait, régulièrement, on les fait en pourcentage. On vous dit, on augmente de 3%, on augmente de 4%. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait en arrivant l'année dernière. J'ai augmenté de 4% en urgence les bourses en arrivant, en juin pour septembre. Et en fait, en faisant la concertation qu'on a lancée, on dit souvent, vous allez trop vite, vous ne calculez pas les impacts, vous faites la politique, c'est sur
qui
un temps court.
Bah, ce n'est pas les étudiants qui disent ça.
Je l'entends souvent dans les grandes réformes qu'on fait, en disant, quel que soit, n'allons pas trop vite, regardez, concertez, étudiez, vous ne regardez pas les impacts.
Qui dit ça ? Non, mais
qui dit ça ? Parce que je...
Ah bah, vous n'entendez jamais ça quand on fait des réformes,
les étudiants,
etc.
Ben on ne fait pas de réforme, nous. Donc
oui, mais je vous le dis, par rapport au monde politique, je pense que vous le savez très bien.
La droite, et pas c'est que ça.
Non.
Si, c'est les Républicains qui disent qu'il ne faut pas y aller trop fort, etc.
Non, mais je ne parle pas que des étudiants. Écoutez, soyons très clairs.
Allez-y.
Dans le cadre général, même dans la population, je vous rappelle, je suis ministre de la société civile, donc dans la population, on entend souvent de dire « Ah, le temps politique, c'est un temps court. Hein, s'ils savaient comment étudier, comment concerter, comment prendre le temps d'eux... » Moi, je l'ai entendu quand j'étais à l'université.
Mais ça n'empêche pas de penser long terme.
Je finis.
Allez-y.
Et c'est vrai qu'il y a deux étapes sur les bourses. Parce qu'il y a la précarité et que celle-ci n'attend pas, on a pris des mesures, donc comme je vous le disais, au départ d'urgence, et là, une première étape avec un demi-milliard, enfin 500 millions d'euros sur la table, avec déjà un premier pas structurel. Je pourrais y revenir. Mais avec l'engagement de remettre à plat ce modèle des bourses, etc., parce qu'il y en a besoin. Et ce modèle des bourses, il y a plusieurs points. On l'a étudié, concerté les points, le seuil. Enfin, je ne vais pas vous donner tout le rapport, mais on connaît aujourd'hui. Et un des points aussi, c'est que c'est toujours traité les étudiants à part des autres aides de solidarité. Et en travaillant l'année dernière avec les étudiants, l'ensemble des acteurs et le ministère de la Solidarité, on s'est aperçu que finalement... au long terme, la meilleure façon de ne pas oublier les étudiants dans les augmentations pensées pour les aides sociales, c'est de les inclure dans le modèle de solidarité à la source. Donc c'est ce qu'on est en train de faire.
Le RSA pour les étudiants.
De regarder, le RSA, c'est un système qui emmène vers, on va dire, qui permet des gens qui ne sont pas en insertion, qui l'amène vers l'insertion. Je pense que de dire que l'enseignement supérieur et la recherche et les étudiants, en tout cas l'enseignement supérieur, c'est équivalent au RSA, c'est pas l'image
mais dans l'idée
que j'ai
d'une aide
de l'enseignement supérieur, si vous voulez.
Dans la suite logique de ce que vous dites, il y a déjà eu la généralisation sur la santé.
Et au niveau du RSA.
D'accord, ok.
Mais dire que je vais faire le RSA pour l'enseignement supérieur, non, l'enseignement supérieur et l'accès à l'insertion et l'accès à l'autre. Et on est
et donc sur l'allocation universelle.
Alors, vous êtes juste pour ou contre, ou d'accord ou pas avec certains de vos ex-collègues, finalement ?
Non, je ne suis pas d'accord, mais je l'ai dit. Pourquoi je ne suis pas d'accord ? Et comme vous dites, sur 130 établissements, il y en a une quinzaine. Donc, et on en a parlé, on a fait les concertations territoriales, etc. Pourquoi je ne suis pas d'accord ? Je suis d'accord pour aider plus ceux qui en ont besoin. Je le dis depuis le début, c'est mon guide. Et c'est vrai qu'il faut faire plus, et c'est vrai qu'il faut faire vite. Mais il faut faire vite avec un modèle. Ce modèle-là, ça fait 30 ans qu'il existe. 30 ans. Donc, quelque part, ça vaut le coup de prendre un peu de temps pour préparer un modèle qui risque de durer encore 30 ans.
D'autant plus qu'il y a eu une massification de l'enseignement supérieur entre-temps.
Et moi, j'avais une question.
Le modèle dure quand même 30 ans. Par contre, on a pris là des mesures plus urgentes parce que ça n'attend pas, qui sont des mesures, et je reviens sur ce que vous disiez, c'est par rapport aux classes moyennes, par rapport à cette analyse, au lieu de prendre un pourcentage qui aurait augmenté très peu certains, etc., on a augmenté tous les échelons d'au moins 37 euros de plus par mois. On a fait rentrer, en changeant le barème, 35 000 étudiants supplémentaires au bas mot. Là, la mise en paiement des bourses fin août, c'est 70 000 étudiants supplémentaires. On verra, c'est intermédiaire. Je crois qu'il ne faut pas en tirer trop de conclusions. Je vous le dis là, mais je suis très prudente.
Oui.
Mieux si c'est ça, mais je suis très prudente.
On a demandé à notre public de nous envoyer des vidéos. C'est une nouveauté dans cette saison de Backseat. Vous allez pouvoir vous-même interpeller nos invités politiques. On a Corentin qui nous envoie une vidéo pour parler des repas du Crous et des logements étudiants.
Bonjour Madame la Ministre, j'enseigne à l'université et j'ai régulièrement des étudiants qui me disent qu'ils sautent des repas à la fin du mois et qu'ils vivent dans des résidences Crous dans lesquelles il y a des rats et des cafards. Il y a quelques mois, il y a eu une proposition de loi qui proposait de plafonner le prix des repas dans les restaurants universitaires à 1 euro et tous vos députés ont voté contre. Comment vous justifiez ça ?
Alors, n'hésitez pas à dire à tous les étudiants qui vous contactent qu'ils se loguent et ils auront droit instantanément au repas à 1 euro et qu'effectivement, par la suite, il y aura ce dossier, mais s'ils en ont besoin, ils auront droit au repas à 1 euro. Nous avons pérennisé, d'abord, ce gouvernement a mis le repas à 1 euro pendant la crise, donc de dire qu'on est contre, c'est un peu fort de café, quand même. Et on vient de le pérenniser pour tous les étudiants boursiers de façon automatique, mais effectivement, il y a plus d'étudiants que les étudiants boursiers aujourd'hui qui ont des besoins, et donc tous les étudiants qui ont besoin, n'hésitez pas à leur dire de se loguer sur le site du Crous pour avoir accès immédiatement au repas à 1 euro. Puis effectivement, après, comme on le disait tout à l'heure, le dossier.
Logement.
Les logements.
Il y a une question du logement. Usul, je crois que tu avais une question.
Tout à fait, mais je réponds à monsieur
allez-y,
sur le logement.
Répondez à Corentin sur le logement.
Par rapport, vous avez raison, le Crous a fait un gros travail ces dernières années, mais il reste 7% à peu près, c'est-à-dire 12 000 logements Crous qui sont vétustes. C'est toujours 12 000 de trop, c'est ceux dont vous parlez.
Sur combien ?
Sur, je ne sais plus, mais c'est 175 000.
D'accord,
mais je ne voudrais pas dire de bêtises.
Non, je pourrais vous redonner.
Je
ne
veux pas vous dire de bêtises. Mais il reste 12 000 logements. Et je viens de débloquer 300 millions planifiés. Donc c'est planifié, c'est financé. Avec un engagement fort, puisqu'ils sont là, pour rénover ces 12 000 logements avant 2027, c'est-à-dire c'est planifié, 4 000 sont démarrés, il en reste 8 000, et donc le Crous va à planifier la rénovation de tous les logements Crous qu'il reste à rénover.
Donc d'ici la fin du quinquennat, tous les logements Crous auront été rénovés.
Oui, d'accord.
Mais Usul, justement, je lisais un article de Street Press qui est sorti il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, justement sur les logements Crous, qui disent que d'ici que ceux qui doivent être rénovés soient rénovés, d'autres auront peut-être besoin de rénovation, d'autant plus que quand on a construit ces trucs-là, c'est des matériaux d'assez faible qualité, d'où des fuites, d'où de la moisissure, d'où de l'humidité, etc. Qui fait que, bon, quand vous aurez rénové cela, il y en aura d'autres à rénover de toute façon. Mais ma question...
Oui, c'est pour ça qu'on est toujours là.
Oui.
En tout cas,
ma question, justement, et c'est en lien avec cette histoire de matériaux de qualité, etc. Est-ce qu'il y a il n'y a pas de volonté politique de créer un véritable service public de logement des étudiants? Les chiffres dans Street Press, c'était qu'aujourd'hui, pour un étudiant, pour un logement, il y a 17 étudiants en population, alors qu'il y a quelques décennies, c'était 3. Il y avait trois étudiants sur trois étudiants. Mais donc du coup, d'ailleurs, il y a un marché privé qui s'est développé avec des promoteurs qui font des résidences étudiantes privées. Alors c'est formidable, des gens font beaucoup d'argent sur la précarité des étudiants. Bah si, fatalement. Est-ce qu'il y a il faudrait une véritable volonté politique pour mettre en place de nouveaux grands travaux, de construire des trucs, et si possible de construire des trucs mieux, histoire qu'il y ait moins peut-être à les rénover à tout bout de champ. C'est pas du tout dans les cartons, c'est-à-dire qu'on a complètement abandonner le service public du logement pour les étudiants.
Sylvie Retailleau.
On bricole avec ce qui reste et on voilà.
Alors, d'abord, effectivement, quand on affirme des choses, il faut les objectiver. Puis vous savez, il y a eu d'autres gouvernements avant. La massification des étudiants et le nombre d'étudiants qui ont augmenté, qui explique aussi ces chiffres. C'est pas juste que c'est le même nombre et que d'un coup, ça s'est écroulé. Les logements se sont écroulés. C'est aussi une massification.
Est-ce qu'elle a été accompagnée, cette massification ?
À quelques autres gouvernements aussi en amont, parce que quand on parle logement, c'est encore pire que quand on parle repas sur les réponses et sur les urgences. urgence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut un peu regarder et objectiver. C'est-à-dire, effectivement, on a des chiffres, on les connaît. Puis on a aussi des régions, c'est-à-dire des coins où la tension est plus forte que d'autres. Donc on a regardé pour essayer de se donner des objectifs. Donc là, je vous ai parlé de la rénovation. Parlons maintenant de la construction et de nouveaux logements, puisque c'est ça dont vous me parlez. Et dans ça, on a essayé de se donner des chiffres, parce qu'il faut être réaliste. Quand je vous dis oui, 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 parce que j'en suis sûre, j'ai les 300 millions. Donc ensuite, on se dit quel est l'objectif réaliste pour essayer de répondre. Aujourd'hui, l'objectif réaliste, c'est quand on a, alors il ne faudrait pas que je me trompe de chiffres, mais à peu près une demande en fait de à peu près 11%, enfin de entre 11 et 12% ou 11 et 12%. Sur 100 étudiants, on va dire, je crois que c'est sur 100 étudiants, eh bien, 80% des CROUS sont remplis. C'est-à-dire qu'on a encore une petite marge de manœuvre dans les endroits où on a un nombre de logements qui peut répondre à entre 11 et 12 étudiants, logements pour 100 étudiants.
C'est compliqué les chiffres ce soir, il est tard.
C'est pour ça que vous êtes trompé tout à l'heure.
Mais je vous ai écouté sur France Culture ce matin, moi aussi j'étais
aussi,
béto. Voyez,
voilà. On est à la même enseigne là, c'est l'âge. Mais moi encore plus que vous. Et donc on a cette proportion. Il y a des sites où il y a en dessous de 10. Donc, on va donner une priorité. Et pourquoi ces sites sont un peu saturés? Parce qu'on le sait, on a un vrai problème de foncier. Et le problème aujourd'hui de la construction et des constructions, c'est pas tant parfois un manque d'argent, puisque vous avez aussi dû lire la déclaration de la conférence de presse de la directrice du CNUS qui dit qu'elle a identifié là les fonciers et donc on va pouvoir y aller parce qu'on a un vrai problème d'identification des fonciers. Donc on s'est donné un objectif qui correspond à peu près à 40, 45 000 logements supplémentaires, c'est-à-dire qu'on va vouloir atteindre les 60 000 logements.
À quel horizon?
On va essayer pour le 2027, et là je suis prudente parce qu'on est en train de faire ce travail d'identification des fonciers. Et on a missionné l'année dernière un ancien député qui s'appelle Richard Laugier, qui va sur place regarder avec les acteurs du territoire, nous identifier, pas faire un rapport de plus, mais identifier concrètement les fonciers disponibles pour qu'avec Patrice Vergriete, parce que c'est quand même son domaine,
Je comprends. Moi, vous m'avez perdu à identifier le foncier, et je pense que vous avez perdu aussi beaucoup de temps.
Beaucoup d'étudiants avec une réponse. Je coupe, madame la ministre. Pour les personnes qui posent la question
mais
dans le chat.
Le foncier, je pense que c'est simplement le terrain disponible pour pouvoir construire. Je pense que les gens.
Identifier le foncier, ça veut dire où est-ce qu'on va le construire, le logement étudiant.
Je sais que c'est des étudiants en face, donc je sais qu'il n'y a pas de souci.
Donc c'était ça, identifier le foncier. Sacha.
Madame la ministre, depuis le début de votre arrivée, il y a plusieurs chercheurs qui expliquent qu'ils ont été contraints de s'exiler de leur fac et de la France parce qu'il n'y avait pas assez de postes. Comment on pallie à cette fuite des cerveaux, entre guillemets, et comment nous, Français, on reste à la pointe de la recherche avec si peu de moyens, finalement?
Ouais. Alors, c'est la partie recherche, hein, effectivement, et science. C'est effectivement un point important aujourd'hui. Ce constat, il est fait, il n'est pas nouveau, et en particulier, on l'avait fait en commun en 2020. Ce constat de l'évolution des publications ou autres, ou de l'impact de la recherche française au niveau international, on l'avait fait en 2020 et ça va donner lieu à ce qu'on appelle la loi programmation de la recherche,
la LPR,
qui donne lieu à une programmation, puisque c'est programmé de 25 milliards sur 10 ans. En fait, ça correspond à la fin, c'est comme si on augmentait le budget du ministère de 20%. Pour dire le final.
Et en fait,
sur cette loi, une grosse part est de ce qu'on appelle les ressources humaines, les postes.
Ouais.
Et la programmation de ces postes, c'est la prévision d'environ 5200 postes supplémentaires sur cette loi de programmation.
Mais donc, ils existent ou c'est à horizon 10 ans?
Ah non, mais je peux vous donner des chiffres et vous les avez, ils sont édités tous les ans. Et donc, je vais vous donner deux exemples.
Et donc, les personnes qui disent qu'il n'y a pas assez de postes se trompent, ils ont été créés depuis 2020, c'est ça que je ne comprends pas.
Alors, je vais vous expliquer, c'est-à-dire qu'ils ne se trompent pas dans le sens que ce constat, 2020, c'est il y a deux ans, trois ans, on va dire. Vrai. Donc voilà, vous savez que les campagnes emploi par an, donc il y en a eu deux déjà qui ont été réalisées. Et on a donné pour 2023, mais on n'a pas encore les résultats. Donc effectivement, je pense que les gens commencent à la voir apparaître sous deux formats. Le format de poste, donc je vais vous les donner, et le format aussi de rémunération, parce qu'on avait un problème d'attractivité, on l'a toujours, sur les postes. Et donc sur cette LPR au niveau ressources humaines, on a, pour caricaturer, deux voies, plus de postes et de meilleures rémunérations.
Mieux payé. Okay.
Voilà. Je vais vous donner deux exemples. Pour la rémunération, c'est deux choses. Un jeune chercheur, un jeune enseignant-chercheur, peu importe, quand il démarrait avant 2020, il pouvait toucher moins de 2 SMIG.
Okay.
Aujourd'hui, le minimum est en salarial, et c'est personne ne touche moins de 2 SMIG en démarrant. Puis, dans la partie indemnitaire, tout le monde touchait 1200 euros au départ. On a un indemnitaire qui monte à 6400 et je crois qu'on en est à peu près vers 3500 ou 4000 euros cette année. Je ne sais plus si c'était 2023 ou 2024. Donc les gens commencent à le voir arriver sur leur feuille de paye en indemnitaire. C'est la même chose pour d'autres.
Et ça, mais c'est pour ceux qui ont un poste, c'est-à-dire pas pour les vacataires, etc.
Mais c'est pour si ceux qui ont un poste, oui. Ce qui est déjà ça, parce que l'attractivité, vous le savez, puisque vous dites que l'attractivité, c'est sur des postes, vous le dites vous-même là, et donc c'est important aussi de s'occuper pour ceux qui ont un poste. Pour ceux qui n'ont pas de poste, parlons des doctorants, par exemple, aussi. Les doctorants, deux choses. On a augmenté de 20% le nombre de doctorants. C'est pareil, c'est l'objectif. Donc là, on a chaque année, je peux vous donner les chiffres, je me l'étais noté là. On a augmenté à peu de 20%, c'est-à-dire plus de 2000 contrats doctoraux supplémentaires. Et on a augmenté leur rémunération au final, hein, de 30%. C'est-à-dire qu'un doctorant en 2020, il touchait 1785 de mémoire. Aujourd'hui, il touche 2000 euros et il va aller à 2300 euros. Donc ça veut dire 2300 euros, même 2000 euros. Ouais. On est dans les standards européens et internationaux. Et surtout, on a augmenté, vous dites plus 2000, le nombre de contrats doctoraux. Parce que, comme vous dites, les vacataires, je reviens donc sur les vacataires, pour moi, un vacataire dans l'enseignement supérieur, c'est quelqu'un qui a un boulot à côté, normalement.
En principe.
C'est pour ça que je dis. Parce que c'est un apport du professionnel dans l'enseignement. Mmh. Donc, c'est important d'avoir des gens et c'est un apport. Et donc, cette vacation qui est, c'est justement en complément d'un salaire de boulot. C'est vrai qu'il y a une dérive de vacataires.
Parce que les universités ne tourneraient pas sans les vacataires, là.
J'y viens. Oui. Et en particulier, je connais à peu près, oui. Et en particulier, un peu. Et en particulier des vacataires. Et justement, ces vacataires qui sont souvent des doctorants. Et dans certaines disciplines. C'est pour ça qu'on a augmenté d'une part les contrats doctoraux en nombre et qu'on les a pas mal fléchés sur les sciences humaines et sociales. Vous comprendrez pourquoi quand vous parlez de vacataires, première chose. Qu'on a augmenté aussi en plus des 2200 de 500 postes, enfin contrats doctoraux, ce qu'on appelle CIFRE, ce sont les contrats doctoraux avec les entreprises aussi pour d'autres disciplines. Et aujourd'hui, je viens de faire le bilan, on a 8 doctorants sur 10 qui ont des contrats. On a augmenté en 2 ans de plus 4,5 points le nombre de doctorants qui ont des contrats. Et je pense que c'est important pour deux choses. Parce que d'abord, ça leur donne une assurance, un contrat. Ils sont payés pour faire leur thèse et des vacations. Et la deuxième chose, c'est que c'est un vrai contrat. Et donc, ça compte pour leur retraite.
On continue à parler des débouchés quand on fait de la recherche. On a Baptiste qui nous a envoyé une vidéo parce que ça le concerne directement.
Bonjour à tous, bonjour Madame la Ministre.
Bonjour.
Je me présente, je m'appelle Baptiste et je suis actuellement en doctorat. Je voulais vous poser une question à propos de la situation des jeunes chercheurs dans le monde de la recherche. Actuellement, on sait que les jeunes chercheurs doivent enchaîner beaucoup de contrats précaires, que ce soit des post-doctorats ou des contrats de projet, souvent à l'étranger aussi d'ailleurs, avant de pouvoir espérer avoir peut-être une place de titulaire. Et ces places sont rares et peu attractives par rapport au privé. Voilà, j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus et savoir si vous souhaitez y apporter des modifications. Merci beaucoup.
Merci pour ta vidéo. Sylvie Retailleau te répond.
Merci à vous. Oui, c'est une dérive depuis beaucoup, et malheureusement aujourd'hui sur toutes les disciplines. Donc deux choses. Premièrement, quand on fait une thèse, un post-doc, deux post-doc, trois post-doc, je peux dire que c'est une expérience qui peut être enrichissante.
Oh bah, on peut
cinq
dire, oui.
Post-doc pour l'étudiant. Enfin, quand on part, je pense qu'à l'étranger. Quand on en est à 5, ça devient pas normal.
C'est juste de la précarité, là, ouais.
Exactement. Donc, et c'est pour ça qu'on a limité aujourd'hui le nombre de post-docs à 3 ou 4 pour pas partir dans une utilisation du post-doc qui serait autre que de donner ce marche-pied vers la recherche.
Et quand on arrive à 3 ou 4 post-docs, on est dans la merde, en fait. J'essaie de comprendre, du coup, c'est quoi
on attend le poste.
Alors,
on attend le poste, il n'y en a pas.
Non, je vais vous dire une chose, c'est qu'à part en France, le doctorat dans le monde entier n'est pas considéré que pour faire de l'académique. Et je pense que oui, on doit, et je reviendrai sur les postes académiques après, parce que nous les augmentons aussi, mais je crois que cette idée d'attendre un poste académique parce qu'on fait un doctorat, c'est juste une idée fausse, c'est une idée qui ne valorise pas le doctorat, et je pense que le doctorat, les compétences qu'on acquiert, doit être valorisées,
oui, que ça part dans
évidemment
le
dans,
ça,
le public,
dans le privé, parce que
mais
ça veut dire
aussi
que...
dans le privé. Okay.
Donc l'avenir d'un doctorat, c'est pas toujours à l'université.
C'est pas toujours.
Ok, d'accord.
Ah ben ça c'est clair.
Alors,
pour moi, l'avenir d'un docteur et doit être reconnu. Et on est bien un des seuls pays en France où on a si peu de reconnaissance dans tous les domaines d'ailleurs, pas que dans le privé. Il y a d'autres fonctions publiques qui pourraient et qui peut-être devraient avoir des docteurs. Mais aussi bien le privé que le public, la reconnaissance du doctorat et aussi les débouchés du doctorat, c'est quelque chose qu'il faut valoriser. Mais la deuxième chose, c'est juste le nombre...
Pardon ? Il y a des gens qui ont envie de faire de la recherche.
Oui, mais bien sûr.
Et il y a des entreprises dans les... Enfin, alors, vous allez me dire, on fait de la recherche dans les
voilà,
entreprises.
Voilà, vous voyez,
et
voilà, vous dire.
Je me doutais bien. Mais par exemple, en sciences humaines, c'est un peu délicat de trouver une entreprise qui fait de la recherche en sciences humaines.
Oui,
donc
mais
là,
alors...
Là, c'est vrai que
juste non, parce que de plus en plus, beaucoup d'entreprises, en tout cas dans mon domaine, demandent aussi des compétences et des apports en sciences humaines. Vous savez, aujourd'hui, quand on veut relever les défis qu'on a, c'est pas une discipline, c'est du pluridisciplinaire. Et avoir cette image des SHS, sciences humaines et sociales, d'un côté et des sciences dures de l'autre côté, c'est pas une image du 21e siècle. Donc même dans les entreprises et le R&D, vous avez besoin aujourd'hui des sciences humaines et sociales, énormément. Et en fait, on a besoin des deux partout, que ce soit dans la recherche publique ou privée. Bon. Sur les postes quand même...
Allez-y, sur les postes, après sur la recherche fondamentale par contre, où là, c'est les entreprises investissent moins là-dedans.
Oui, mais la recherche fondamentale, c'est au public de le porter.
Voilà.
Et là, c'est au cœur de nos missions. Mmh. Et c'est pour ça que je le défends et on le défendra longtemps pour avoir tout ce spectre de recherche fondamentale jusqu'à recherche appliquée et transfert. Mais effectivement, cette recherche fondamentale, il y a un peu de R&D parfois qui en font, mais c'est propre et il faut qu'on le porte fort au niveau du public. Ça, je vous rejoins.
Depuis tout à l'heure, Madame la Ministre...
J'essaye de vous donner un poste.
avant ça, parce qu'on... Mais allez-y, après, je voudrais quand même vous faire réagir au propos du président.
Au niveau des chercheurs, donc aussi, peut-être deux points que j'essayais d'aboutir doctorants et les post-docs, c'est on a mis, je vous parlais tout à l'heure des 2000 contrats doctorants en plus, mais il y a aussi au moins 2000 postes de chercheurs en plus, au minimum, ça c'est dans la LPR. Et par exemple, cette année, nous allons à mettre 650 ETP postes l'année prochaine, mais en fait, on en a plus que 700, puisqu'on en met à la fois dans la LPR et on en fois dans le budget. Je voudrais dire qu'on rajoute en gros une petite centaine de postes cette année supplémentaires dans les organismes et dans les universités. Mais on a ces chaires de professeurs juniors, à peu près 2000 en plus, qui à la fin aboutissent à des postes de titulaires, professeurs titulaires, même si au début c'est du type post-doc, mais pendant une durée limitée, avec un atterrissage titulaire. Et donc, ces postes chaires de professeurs juniors, pourquoi j'en parlais ? Parce qu'effectivement, ça nous permet d'attirer des chercheurs qui étaient soit partis à l'étranger, vous en parliez tout à l'heure, soit des chercheurs étrangers. Et aujourd'hui, sur les deux campagnes emploi, sur ces chaires, les retours que l'on a, c'est 45% des personnes qui reviennent de l'étranger. Sur les postes de professeurs classiques, c'est 15%. Mmh. Donc, on a essayé d'admettre, je vous rejoins
c'est
sur cette
tellement
attractivité.
De chiffres. Je crois que
on a l'impression d'être
Mais c'est important parce que beaucoup...
Personne ne nous avait donné autant de chiffres comme ça.
Parce que tout le monde ne connaît pas aussi bien son ministère, sans doute. Mais
voilà,
on
veut vous montrer que voilà, les chiffres, je pense
mais dans les chiffres, il y a aussi de l'engagement
politique. Et de montrer qu'on a ces postes titulaires en même temps que les doctorants, en même temps que l'avenir des précaires, et d'avoir ce paysage effectivement varié, qui est caractéristique de ce ministère aussi, quoi. Je pense que c'est important, et c'est important de mettre des chiffres à côté, parce que dire aux gens, on fait...
Mais alors, justement, sur la question des chiffres, il y a beaucoup de questions budgétaires, il y a beaucoup de questions d'argent. On vous voit, Madame la Ministre, vous défendez votre ministère, etc. Je suis pas sûr que vous soyez soutenue partout, et notamment au-dessus de vous. On a un extrait que je voudrais qu'on regarde. Mon confrère Hugo Décrypte a reçu Emmanuel Macron en interview, et il lui a posé une question sur le financement de l'enseignement supérieur. On l'écoute.
Quel est le but des études supérieures ? De pouvoir avoir un métier, un avenir qu'on choisit. Or, aujourd'hui, quand je regarde les chiffres, 50% des jeunes qui s'inscrivent en licence ne vont pas se présenter à l'examen ou l'avoir. Donc on a un énorme problème d'orientation et on a une forme de gâchis collectif.
Ou de moyens mis à l'université.
Non, ce n'est pas des moyens, pardon. Ce n'est pas des moyens. Avec les moyens qu'on met, on doit faire beaucoup mieux.
Moi, quand j'entends ça, avec les moyens qu'on met, on doit faire beaucoup mieux, j'entends un président qui n'est pas franchement chaud pour vous donner des arbitrages, du budget supplémentaire, etc.
Bah, écoutez, pour l'instant, on les a eus, hein, les 1,2 milliard, etc. Bah, je vous laisse toucher du bois, mais pour les bourses. Ça... Après, voilà. Sur le budget, parce que c'est effectivement...
C'est un peu, il y a une côté nerf de la guerre.
Hein. Alors, exactement, j'allais le dire. Vous confirmez le chiffre de 50% des étudiants inscrits en licence qui ne vont pas aux examens?
Alors, c'est le taux d'échec, en fait. C'est-à-dire que vous avez, hein, vous pouvez trouver ces taux-là à peu près partout. Donc, suivant ce que
donc
vous...
Donc, c'est pas grave.
C'est pas grave.
Vous dites, on peut retrouver ces taux-là à peu près partout, donc c'est normal.
Non, c'est la confirmation du chiffre que Macron s'est pas trompé sur le chiffre.
Ah oui, je serais vrai. Ce que je dis, c'est que ces chiffres.
Ah, t'es parti au quart.
Non, je comprends.
Voilà. Allez, moins de
c'est
chiffres.
C'est parce que les chiffres. Ouais. Là, c'est pas moi qui les.
Non, mais je suis fatigué.
C'est vous qui les avez.
C'est les chiffres, là. Trop de chiffres, je vais exploser.
Vous devez pas avoir.
Voilà. Est-ce que Emmanuel Macron s'est pas fait. Est-ce
qu'il n'a pas fait d'études supérieures, moi?
Ouais, ouais. Non, j'allais dire le côté mathématique des pourcentages d'Emmanuel Macron.
Ah, ben déjà, c'est compliqué. Donc, est-ce qu'il a raison sur ce chiffre, déjà? Et ensuite.
Encore une fois, hein, ces chiffres de taux de réussite, ou que ce soit en première année ou à la fin de licence, vous les trouvez, c'est ce que je voulais dire, accessibles partout, en moyenne générale. Ou voilà. Ce qu'on voit, c'est, je vais vous en donner un qui est à la fin des trois années, parce que c'est représentatif du diplôme, c'est qu'en France, le taux de réussite en trois ans d'une licence, c'est effectivement 36%.
Oui, mais dire que la moitié des élèves inscrits en licence ne vont pas à l'examen, c'est factuellement faux.
La fiche n'était pas parfaite.
Non, mais je ne peux pas répondre parce qu'aujourd'hui, on mesurait avant ce chiffre-là parce qu'on appelait, je vais être technique, mais c'est une réalité, un défaillant. Enfin, c'était rentré dans nos logiciels. On ne l'a pas encore aujourd'hui.
Mais quand
donc
le président vous dit, faites mieux avec
ça. Je ne vais pas vous dire, c'est vrai, c'est faux.
Non, mais il ne s'agit pas de fact-checker le président, mais on a compris que ce n'était pas vrai. Mais qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit, faites mieux avec ce que vous avez?
Alors, je pense que, quelque part, faites mieux avec ce que vous avez, c'est vrai et faux. Alors, vous allez me dire, c'est le en même temps, c'est vous.
Oui, on n'est pas loin, mais expliquez-moi.
Je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien sûr que plus on a des moyens, souvent, plus ça facilite le progrès, etc. Ouais. Mais j'ai beaucoup d'exemples, dans notre domaine, mais comme dans d'autres, où mettre des moyens dans une organisation qui parfois ne répond pas ou n'est pas optimum, etc., pour certains points, et je vais vous dire de quoi je pense, parce que je connais bien et je porte depuis 35 ans cet enseignement supérieur, et en particulier le premier cycle, c'est effectivement pas toujours la première chose à faire. Je dis pas la bonne chose, je dis la première chose à faire. Et je pense, on le voit par exemple, si vous regardez, à chaque fois on nous compare à l'étranger, vous savez, les 3% de PIB là pour la recherche, si vous regardez l'Italie et l'Espagne, qui est en dessous de nous, n'empêche qu'ils ont progressé dans tous les critères, publications dont on parlait tout à l'heure, beaucoup plus que nous. Donc attention à ne pas associer directement, c'est ça que je dis, et je pense que le président dit que tout est une question de moyens. On ne dit pas que ça ne facilite pas, on ne dit pas qu'il n'en faut pas, on dit que tout est une question de moyens. Et je vais expliquer. La France a un premier cycle où la moyenne d'âge des étudiants est la plus jeune en Europe. Et je pense que ça aussi, le fait d'avoir une culture en France de ce que j'appelle le parcours linéaire, où vous n'avez pas le droit d'échouer, où vous n'avez pas le droit de vous arrêter, où c'est l'obtention du diplôme qui prime, passe ton bac, mon fils, avant, mais ça devient passe ta licence, passe, etc. C'est quelque chose qui n'est plus adapté aujourd'hui, ni au profil de nos étudiants, ni aux besoins de la société, les deux. Et je pense qu'on a une vraie réflexion sur qu'est-ce que représente ce qu'on a appelé tout le temps cette voie royale en France, cette voie royale linéaire, quand on a 3 millions d'étudiants, quand on a autant de profils d'étudiants, autant de besoins, on doit se remettre en question sur la façon de proposer des parcours, je ne peux pas dire individualisés parce que c'est compliqué,
non, je
mais
que
un petit
dire.
Peu
mais
comme type la revalorisation de profil des étudiants. Des parcours et je pense qu'effectivement, pas que professionnels, mais se tromper, pouvoir partir une année en césure, aujourd'hui c'est possible, on a bataillé pour accepter l'année de césure.
Je sais, je me suis battu pour à l'époque.
Voilà, l'apprentissage ou l'alternance, aujourd'hui ça va, mais beaucoup de nos collègues ne considéraient pas qu'un diplôme par alternance ou apprentissage avait la même valeur qu'un diplôme initial. La validation d'acquis d'expérience, même encore aujourd'hui, a validé des compétences de quelqu'un qui est parti dans le monde du travail et les valider pour acquérir ou avoir un diplôme, c'est très compliqué de dire que ça a la même valeur. C'est tout ça qu'il y a derrière et qui, je pense, correspond aux besoins et au profil étudiant et ce qui est partout présent en Europe.
On arrive déjà à la fin.
C'est pas que la meilleure manière d'améliorer ça, c'est aussi les conditions d'études de tous les étudiants. Parce que c'est vrai que, je suis désolée, madame la ministre, mais à vous écouter depuis le début, j'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle au vôtre. Où d'un côté, je vois des chercheurs qui galèrent, des gens qui partent à l'étranger pour continuer leurs études. Vraiment, hein, les montants que vous nous avez donnés, ceux dont je me souviens, je crois que je connais aucun chercheur autour de moi qui gagne ça. Alors peut-être que voilà, c'est pas objectivé, hein, comme vous avez dit depuis le début, mais quand je me renseigne, quand je lis dans ce qu'on, c'est pas ce que je trouve. Et aussi, encore une fois, pour la situation et la précarité étudiante. Je me souviens plus, vous avez 35 ou 70 000 nouveaux boursiers à la fin du mois d'août, et vous avez donné le chiffre de ce qui a été ajouté, que vous avez obtenu un arbitrage, etc. En attendant, moi, ce que je vois, c'est des étudiants qui dorment sous des tentes, en fait. C'est des étudiants qui ont faim. Et c'est vraiment très dur, je vais vous le dire très sincèrement, de vous voir dérouler toutes ces données qui, évidemment, sont objectivées. Vrais, qui sont, je ne doute pas que c'est des dossiers sur lesquels vous travaillez toute la journée, etc. Mais quand on est de notre côté, du réel, c'est très compliqué à entendre. Et je me mets à la place d'étudiants qui sont en face aujourd'hui, qui sont obligés de travailler 20 heures, d'aller à la fac, de pas savoir ce qu'ils vont, s'ils vont pouvoir faire leurs courses ou payer leur loyer. Et vous entendre dire, on a fait ça, loguez-vous, vous aurez le repas à 1€, mais en fait, ça me paraît un peu loin, en fait, et déconnecté. Vraiment, encore une fois, hein. On a du mal parfois à comprendre, vous répondre, même sur l'allocation étudiante ou la réforme du système de bourse. En fait, la situation est urgente et voilà.
Alors, peut-être, vous me dites, je déroule un discours. Je pourrais vous dire, vous déroulez aussi le discours. Donc voilà, arrêtons de dérouler.
Je parle des choses que j'ai vécues et qui forcément
ça fait 35 ans que je l'ai vécu. Donc me dire à
vous. Vous avez été boursière, Mme Retailleau ?
Non, je n'ai pas été boursière.
C'était juste une question.
Oui. Et alors, c'est une honte de ne pas avoir été boursière, mais
pas du tout. Pas du tout.
Voilà.
Non, mais
c'était juste une question que je vous posais.
Du coup, allez-y sur le décalage entre le discours et la réalité.
Ce que quand vous disiez sur la réalité, je comprends ça. Mais en même temps, si vous voulez donner des explications, des informations et de dire tout ce que je déroule, comme vous le dites, c'est pour apporter un mieux. Alors après, me dire je le vois pas, etc., ne remettez pas, moi je remets pas en question ce qu'on dit. On essaye quand même de construire quelque chose. On essaye de dire les choses telles que, avec effectivement peut-être des chiffres, mais c'est une réalité que les gens voient sur leur feuille de paye. C'est une réalité aussi de ce que les étudiants vivent, parce qu'à la fin, c'est ça qui est demandé. Et donc, je trouve que c'est un peu un discours facile, pour ne pas dire autre chose, de parler de cette façon-là, quand effectivement, l'idée, c'est de proposer un avancement. Si aujourd'hui, je vous donne tout ça en partageant les constats, parce que ça, vous avez oublié de le dire, c'est que les constats que vous avez dit, je les partage. C'est pour ça que je me bats pour essayer de l'améliorer. Et oui, après, c'est de dire, voilà où on en est, voilà ce qu'il y a, mais il reste encore à faire. Et c'est parce qu'il reste encore à faire qu'on va continuer à dérouler, comme vous dites. Mais en tout cas, moi, ça fait 35 ans que je suis avec les étudiants, à tous les niveaux. C'est-à-dire que les étudiants, croyez-moi, j'en ai aidé beaucoup, beaucoup, pédagogiquement,
social. C'est pas du tout ce que je conteste, ne me faites pas dire.
Quand vous dites que vous êtes dans un autre monde, je vous dis non.
J'ai l'impression que vous êtes dans un autre monde, parce que quand vous donner tous ces chiffres, effectivement, à l'épreuve de la réalité.
Oui, mais à un moment donné, il faut les donner aussi.
Oui, mais alors dans ces cas-là, il faut se poser la question, est-ce que ça, c'est suffisant ?
Attendez, parlez pas en même temps.
Mais c'est pour ça qu'on continue.
Est-ce que c'est suffisant, alors ?
Mais c'est pour ça qu'on continue. Après, on est dans un monde où il y a des contraintes, vous le savez, où il y a effectivement des budgets qui sont... On essaye d'apporter des solutions qui sont soutenables, des solutions en se battant, en mettant des priorités. On va continuer à les apporter. Et c'est pour ça que je disais, la première priorité, parce qu'il y a cette urgence.
Oui, parce que vous avez l'impression que vous ne compreniez pas cette urgence-là, en fait, que vous étiez... c'était vraiment... C'est très subjectif.
Hein. Et merci.
Mais ça donnait l'impression que, tout le monde, je crois, a vu ces images, les étudiants, etc. Tout le monde a vu ça. Et donc, forcément, mettre ces deux choses côte à côte, moi, j'avais ces images-là et les récits que j'ai d'étudiants en galère, ou de chercheurs, etc. Et vous qui disiez, bah, finalement, on fait plein de choses et tout va bien.
J'ai jamais dit tout va bien.
Non, mais voilà,
on fait plein de choses. On essaye d'avancer. Je vous ai jamais dit tout va bien, vous le dites. Je vous dis, on a ce constat. Ces étudiants, c'est juste insupportable, comme je vous l'ai dit, hein, si je suis là. Et vous savez, une ministre de la société civile qui a le parcours, comme vous l'avez dit, et qui accepte ou qui dit oui à être ministre, moi, je serai ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, point. Donc, si c'est pas parce que je connais les étudiants et si c'est pas parce que je connais leurs problèmes, pourquoi croyez-vous que je sois là?
Vous ne seriez pas accepté un autre poste, c'est ça que vous voulez dire? J'ai pas compris le point, c'est-à-dire que vous ne voulez pas être ministre d'autre chose?
Oui, je crois que vous avez très bien compris.
C'est ça, j'ai
exactement.
Compris. Vous voulez être
ministre de ça. Okay. Et pourquoi? Parce que c'est là où je peux, par ma compétence, par mon vécu, par mon expérience et par les problèmes qu'ont connus les étudiants. Parce que oui, j'étais avec les assistantes sociales pendant les 10 dernières années. Oui, j'étais avec les gens.
Mais j'ai jamais contesté ça.
Et c'est ça qui motive. Et ça, ça nous permet effectivement d'essayer de proposer dans un contexte contraint, je le sais, mais de proposer certaines solutions. Et pourquoi on déroule? Parce qu'on est obligé aussi de montrer, et une des points, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de mal de faire passer l'information à nos jeunes. C'est intrinsèque, hein, quelle qu'elle soit, de toucher les jeunes, parce qu'en fait, ils prennent l'information quand ils en ont besoin. C'est humain, mais en particulier dans la jeunesse. Et je pense qu'à chaque fois que j'en ai l'occasion, et ce n'est pas si souvent, j'essaye de faire passer aussi ces informations typiquement du repas à un euro, loguez-vous. Parce que partout où je vais à Nîmes, sur les campus, quand je vois les étudiants, partout où je vais sur les gens qui nous aident, parce que ce n'est pas la solution, mais les banques alimentaires, etc., et ben on travaille avec eux dans l'urgence. Et bien, quand je parle du repas à un euro pour les étudiants précaires, ils ne sont pas au courant.
On arrive déjà à la fin de nos échanges, Sylvie
Donc
Retailleau.
Donc, c'est important de passer les informations.
Loguez-vous si vous pouvez bénéficier d'un repas à un euro, loguez-vous et intéressez-vous à la politique. Toute dernière question, un peu plus anecdotique encore que, on avait reçu sur ce plateau un député, Aurélien Pradier, Les Républicains, qui proposait l'uniforme à l'université. Ouais, je vois que ça vous fait marrer, rassurez-moi, c'est pas dans les cartons ça.
Si je vous dis oui, vous me croyez?
J'espère.
Que ça coûte des sous en plus.
Non, c'est pas dans les cartons.
Voilà, c'est d'autres priorités. Non mais très bien, non mais c'est bon.
Je crois qu'il y a d'autres priorités, oui, je suis
d'accord. Oui, on est bien d'accord, non, parce que parfois c'est, voilà, vous avez besoin des votes des Républicains sur deux, trois lois, mais si c'est là, vous pouvez l'éviter, ce serait super. Merci beaucoup,
merci
Sylvie Retailleau, d'être venue sur le plateau de Backseat. Merci beaucoup.